Ça nous fait très plaisir de commencer, Georges Leroux et moi, cet entretien avec toi, Gilles, que je vais présenter brièvement pour nos auditeurs. Gilles, tu enseignes la littérature et la religion comparée à Columbia University, où tu es associate professor au Department of Middle East and Asian Languages and Culture, et tu diriges actuellement le programme d'études dans ce département. Tu as été le principal éditeur des travaux de Jacques Derrida sur la religion, Acts of Religion, qui est paru chez Routledge en 2001, et tu es également l'auteur d'ouvrages de référence très importants sur les relations judéo-arabes que tu mènes dans une triple perspective religieuse, philosophique et littéraire. Ce travail-là, au croisement de plusieurs champs disciplinaires, d'ailleurs, on pourrait dire que c'est la marque la plus originale de ta signature, en tout cas pour à mes yeux, une signature qui est toujours provocative, on dirait mieux en anglais, toujours pressante d'urgence aussi et d'une remarquable érudition. Dans ton livre intitulé The Jew, the Arab, A History of the Enemy, qui est paru chez Stanford en 2003, tu as commencé à retracer, mais sans pour autant le traquer, évidemment, la figure élusive d'un absent très important, celle de l'ennemi. Et tu t'es attardé tout particulièrement au rôle de l'Europe, qui était demeurée à tes yeux en creux ou insuffisamment analysée, en tout cas dans cette hostilité toujours jouée entre les Juifs et les Arabes. Et tu as mis au jour dans ce livre-là, dans une perspective qui est à la fois historique et théorique, les raisons de cette double absence dans le rapport que l'Europe construit à la fois et aux Juifs et aux Arabes. Si on essayait de résumer un peu l'argument de ton livre, on pourrait peut-être le présenter comme ceci. Cette distinction-là qui est si cruciale entre le théologique et le politique et qui correspond également à l'opposition fondamentale de la modernité qui en a pris le relais ensuite entre le religieux et le séculaire, elle ne prend tout son sens que par la caractérisation du juif comme ennemi théologique, d'une part, et de l'arabe comme ennemi politique, d'autre part. Et donc, c'est cette division que la chrétienté ou l'Europe, il faudra que tu nous dises s'il y a une distinction là pour toi entre les deux. C'est donc cette distinction-là que la chrétienté ou l'Europe a rendue visible et invisible selon ses intérêts propres à certains moments stratégiques de son histoire. Et donc, elle a oblitéré cette double articulation-là en pensant sa propre identité. Ce serait un peu ta thèse. J'espère que si je condense mal, tu me corrigeras. Donc, une articulation qui est manquante, mais en même temps qui est structurante, qui reste néanmoins très structurante. Dans le livre là qui vient de paraître tout juste, qui s'intitule « Semites, Race, Religion et Literature », toujours chez Stanford, tu poursuis ce travail d'analyse-là, cette fois, en interrogeant cette dénomination qui est devenue suspecte ou en tout cas désuète ou presque extincte aujourd'hui du sémite. Et tu interroges ce geste-là en montrant qu'il apparaît et qu'il disparaît, là encore, pour des raisons, encore une fois, stratégiques et politiques du point de vue européen. Dans cette notion-là du sémite, c'est le contraire de la disparition de l'ennemi, si on veut. Cette fois-ci, c'est la jointure qui se fait donc entre ces deux termes opposés du juif et de l'arabe, et par après, ça disparaît au profit du terme ou du concept d'antisémitisme qui ne vaut que pour le juif et pas du tout pour l'arabe. Et donc, tu interroges cette dissymétrie ou asymétrie, là encore, il faudrait voir s'il y a une nuance entre ces deux termes-là ou ce glissement-là, et tu montres à quel point, donc, ça a été, ce terme-là, sémite, très opportun au moment de la refondation des nations européennes, tout particulièrement tout au cours du 19e siècle. Alors donc, ça serait un peu les deux grandes articulations que je vois dans ton travail, mais j'aimerais peut-être, au moment où on commence cet entretien, que tu nous dises d'une manière peut-être plus généalogique, je mets le terme entre guillemets, quelle place, parce que c'est une trilogie un peu ce travail-là, quelle place le tout premier volet entendait pallier comme lacune également. Le titre de cet ouvrage, c'était « Our Place in Andalus, Kabbalah, Philosophy, Literature in Arab Jewish Letters ». Et donc, ça, c'était ton premier travail. Et donc, après l'ennemi, puis ensuite le sémite viennent s'inscrire dans une trajectoire. Et j'aimerais peut-être que tu commences par nous parler de ça, si tu veux.
Très bien. Ben, merci d'abord de tout ce que tu dis. Et puis, merci à vous deux et à Spiral de faciliter cette conversation. C'est, ça me fait très plaisir. J'ai un ami qui, en fait, me dit que Our Place in Al-Andalus, c'est en fait le dernier livre de la trilogie. et c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte, mais quand j'écrivais l'introduction pour ces mythes, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement une trilogie dont je n'avais pas conscience au moment où je l'écrivais. En fait, Our Place in Al-Andalus, c'est une sorte de tentative de réfléchir à ce que serait la relation, disons, judéo-arabe, indépendamment de cette figure d'hostilité qui a été maintenue et, pour ne pas dire produite, par la chrétienté. Et ce qui est intéressant, c'est quand ça revient à la fin de ces mythes, je le dis avec énormément d'inquiétude, en fait. On pourrait parler d'une perspective sémitique. J'hésite énormément parce que le terme sémite il est désuet, effectivement. Il n'a plus cours, vraiment, à part dans le terme antisémitisme. Et il ne semble pas être vraiment sujet à réflexion. Mais surtout, il a en fait exactement la même généalogie que le terme arien. Et de la même façon qu'on est, et avec raison, allergique à une politique arienne, on devrait l'être à une politique sémite ou à une perspective sémite. Mais bien sûr, la dissymétrie entre les deux termes, qui ont la même généalogie, doit quand même être marquée, puisque, comme dans toute opposition binaire, un des termes est inférieur, l'autre terme est supérieur. Et que l'histoire des transformations de perspective arienne est beaucoup plus... certainement beaucoup plus difficile à affirmer de quelque façon que ce soit qu'une perspective sémite. Ce qui est aussi intéressant avec le terme sémite, c'est qu'il y a quand même des gens qui, en 1943, par exemple, un historien de Princeton, Philip Hitti, qui était, si je me rappelle bien, libanais, affirme le sémitisme arabe en disant « Nous sommes les vrais sémites » et de façon intéressante en disant « Nous sommes d'ailleurs beaucoup plus sémites que les juifs ». En 1943, s'affirmer sémite même à Princeton, ça paraît franchement extraordinaire. Alors qu'en fait... En continuant les recherches, je me suis aussi rendu compte que le terme sémite a eu très peu cours chez les nazis. C'est-à-dire, il a été pratiquement abandonné, mis à part dans le discours universitaire. Mais la dichotomie pour les nazis, c'était arien et juif. Avec beaucoup de problèmes qui n'ont pas vraiment été explorés par les historiens en ce qui concerne les... La place des Arabes et des musulmans dans les doctrines raciales nazies, dans la politique nazie. En général, quand on parle des Arabes dans la politique nazie, c'est pour parler de relations internationales, c'est-à-dire du rôle que les nazis faisaient jouer à leur opposition à l'Empire britannique, etc. Bon, mais je réponds pas vraiment à ta question. Donc, Our Place in Al-Andalus, ça serait une tentative de voir ce qui se passe quand la pensée se pense judéo-arabe, pas pour égaliser les termes, mais pour montrer son, j'ai presque envie de le dire de façon extrême, son incapacité à penser autrement. Et chez Maïmonide, et dans le Zohar, et dans les rapports entre ce qu'aujourd'hui on appelle justement philosophie, mystique, littérature.
Littérature, oui, parce que justement peut-être la place très importante dans la structure de ton livre, Sémite, qui donne justement oui, la moitié du livre porte sur
absolument. Et la perspective sémite, s'il y en a une, s'articule aujourd'hui. Dans l'imagination. Et une question qui m'intéressait dans Our Place in Al-Andalus, c'est de considérer la place de la Kabbale dans cette problématique, justement parce que la Kabbale n'est pas reconnue comme une tradition littéraire, contrairement à pratiquement toutes les traditions dites mystiques qu'on connaît, que ça soit la mystique chrétienne, la mystique musulmane ou la mystique hindoue même, on reconnaît les valeurs littéraires, le potentiel imaginaire de que recèlent ces textes, sans les réduire nécessairement à une dimension littéraire telle qu'on use le terme, en tout cas dans la période moderne, mais de reconnaître une richesse imaginative qui participe justement d'un autre rapport, entre autres entre juifs et arabes. Et ces deux termes sont bien sûr deux marqueurs qui sont tout à fait arbitraires, mais enfin bon, on va pas nécessairement entrer là-dedans. Et donc c'était ça qui me guidait dans Our Place in Al-Andalus. Et ce qui à la fois me peine et d'un autre côté m'a semblé être inévitable, c'est en fait la nécessité de passer plus de temps sur les forces dominantes plutôt que sur le potentiel disons de résistance ou ce que Benjamin appellerait la tradition des opprimés, même si c'est une perspective qui continue à informer en fait ce que je fais puisqu'il s'agit d'une critique de la domination quelque part, mais de passer plus de temps malheureusement avec une sorte de plaisir pervers un peu avec les dominants qu'avec l'imagination dominée. Et donc, Our Place in Al-Andalus, c'était en fait ça. C'était passer du temps avec la tradition des opprimés. Encore une fois, pour citer Benjamin.
Est-ce que tu dirais que l'expérience andalouse est une expérience qui est circonscrite dans le temps et qu'il faut examiner comme telle, ou est-ce que tu dirais au contraire que c'est une expérience qui n'a jamais cessé d'habiter l'imaginaire de l'un et de l'autre?
Merci. Très belle question. Et c'est très très important. Absolument pas. C'est une des choses que je trouve absolument extraordinaire dans la réception, surtout telle qu'elle est redéployée ces dernières années, depuis à peu près 1992, c'est-à-dire depuis le 15 centenaire.
Oui.
C'est de parler de l'Espagne médiévale comme d'une exception. Alors qu'en fait, c'est la règle. C'est-à-dire un monde dans lequel juifs, chrétiens et musulmans vivent ensemble, au strict sens du terme de convivencia, c'est la norme. C'est en fait l'Europe, en Europe chrétienne, dans une région du monde géographiquement minuscule, que c'est une exception.
Mais ce qui a été brisé, c'est essentiellement ce qui a été brisé par l'Inquisition. C'est-à-dire que le rapport judéo-arabe, lui, s'est peut-être maintenu.
Mais même judéo-arabo-chrétien, oui. C'est maintenu partout. Pas pour décrire le monde arabe, l'Irak, enfin ce qui est devenu l'Irak, la Mésopotamie, etc., la Syrie, le Liban, enfin tout ce que sont aujourd'hui les États modernes, l'Égypte, sont des lieux de profond contact, parfois violent, parfois non violent. Entre les trois, ce qu'on appelle les trois religions abrahamiques, oui. Et au-delà. Et donc, il n'y a absolument aucune raison de considérer l'Espagne médiévale comme une exception.
Il y a donc une part de candeur, ou en tout cas d'illusion amusée, dans notre admiration pour quelque chose qu'on croit avoir été circonscrit dans une période de temps, finalement. Parce que, bon, on le voit en particulier dans l'espèce de fascination, c'est presque une mode pour la musique judéo-arabe, qui est quand même... Peut-être un des témoignages culturels les plus puissants de cette rencontre.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a une nostalgie qui est partagée dans diverses régions du monde pour Al-Andalus, pour l'Andalousie et pour l'Espagne musulmane. Et elle est compréhensible. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a quelque chose de phénoménal dans cette période, comme toutes les périodes où il y a une concentration de poésie, de musique, de philosophie, de littérature, de production culturelle absolument incroyable. On pense à l'Allemagne du 19e siècle, on pense à la Grèce de Platon et Aristote. Il n'y a pas de doute qu'il y a des moments comme ça où on peut s'extasier devant une production intellectuelle, enfin de plusieurs niveaux, très riche, et une concentration d'esprit, de poètes, etc.
De traduction, mais, souvent.
De traduction,
oui.
Absolument.
Parce que ça va toujours ensemble.
Ça va toujours ensemble, absolument. Donc, il ne s'agit pas de minimiser l'importance de cette période, l'âge d'or andalou, mais de reconnaître que en tant que ce que signifie cette période, c'est une période de convivence, pour citer Marc Abeles, avec qui nous allons parler cet après-midi, ou de convivencia, c'est vraiment une traduction de l'espagnol. Il y a en fait rien de particulier. En ce sens-là, l'Espagne musulmane n'est pas une exception. Et donc oui, elle a continué. Et une partie de l'argument que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'en fait, la perception historique de l'Espagne comme étant finie, fait partie à la fois des modes d'opération rhétorique des textes qui étaient produits à cette époque, et d'un autre côté qu'elle participe d'une sorte de deuil un peu pervers, justement de la part de l'Europe, dans les délimitations par exemple génériques entre philosophie, mystique et littérature, mais aussi dans les séparations quasi absolues entre juifs et arabes, entre chrétiens et musulmans, avec toutes les perversions qu'on connaît du nationalisme espagnol et de l'Inquisition et après.
Ce que tu dis me fait entendre en tout cas ton titre tout à fait différemment, parce que bon, si ce premier volet, il peut venir aussi bien à la fin, en fait, Play, c'est aussi une force de déplacement. C'est un site qui persiste aussi, qui traverse et puis qui implique aussi une autre conception de l'histoire. Et ça, j'aimerais peut-être justement que tu nous en dises un mot aussi, parce que quand tu t'es rendu compte, peut-être dans la suite de l'immense livre de Jacques Derrida, Politique de l'amitié sur l'ami, qu'il n'existait pas vraiment encore une histoire en bonne et due forme, et elle était impossible, le reste aussi, mais qu'il n'y avait pas cette histoire dans la tradition du commentaire philosophique ou ailleurs, peut-être en théologie ou en politique, mais dans les mailles du filet, de la figure de l'ennemi. J'aimerais ça de savoir un peu sur le plan même de ton approche ou de ton travail transdisciplinaire, comment tu travailles cette chose de l'histoire quand même, à travers cette construction-là de l'ennemi qui est invisible, mais en même temps présente tout le temps aussi.
Ouais. Oui, mais juste pour dire un mot sur la place, l'expression "our place in Al-Andalus" c'est une traduction d'une phrase de Maïmonide, une phrase arabe, "Indana fil Andalus", le mot "Indana" se traduit en fait mieux en français comme "chez nous". Et j'aurais bien voulu le mettre en, mais ça aurait fait vraiment trop de
avec les
interférences de la traduction dans le livre sont constantes et elles sont d'une richesse qui moi-même me surprenait à chaque fois dans les traductions, y compris les traductions médiévales, par exemple du texte de Maïmonide, de l'arabe en hébreu, et des conséquences de ces traductions, à la fois positives et problématiques, comme toutes les traductions. Mais ce qui avait été intéressant avec cette phrase de Maïmonide, c'est qu'en fait, elle avait complètement troublé les philologues, qui pensaient que quand ils disaient « chez nous », en Al-Andalus, il prononçait cette phrase quand il y était, bien sûr, parce que c'est quoi chez nous, c'est quand on y est. Or, me rappelant des habitudes de mes parents et de mes grands-parents, chez nous, c'est justement là où on n'est plus. C'est-à-dire, on y est justement en tant qu'on n'y est plus. Et donc, c'est ce mode qui se lie en fait à la question que tu me poses sur l'histoire, ce mode de rapport à l'histoire en tant qu'elle est ce qui reste de ce qui a disparu. Et que donc il n'y a pas de disparition à proprement parler, sauf si on pouvait avoir un je suis sûr qu'il y a un mot en français, mais mon lexique grammatical n'existe plus, mais un gerund, n'est-ce pas, donc vanishing, donc une disparition qui est toujours en cours et qui donc n'est pas, il n'y a pas de disparu, il y a de la disparition. Et ça serait peut-être ça, en fait, l'histoire de l'ennemi, même si je suis pas, je le dis en fait a posteriori, parce que je suis pas sûr que je le pensais comme ça au moment où je l'écrivais. C'est ce mouvement qui d'ailleurs apparaît dans le texte magnifique de Mahmoud Darwish que j'ai mis en exergue du livre, qui est que le mode d'apparition de l'ennemi, c'est justement un départ. un départ constant et une disparition. Et que ça serait ça l'histoire de l'ennemi. L'histoire de l'ennemi, c'est l'ennemi en disparition. Je ne sais pas si la phrase ferait sens, mais et c'est vrai que c'est cette histoire-là qui m'obsède en fait. Des moments d'invisibilité qui sont d'une visibilité éblouissante. C'est-à-dire dès que se pose la question, par exemple, du rapport entre Shylock et Othello. La réaction est immédiate, mais évidemment. Et cette évidence qui est proprement éblouissante et qui se traduit dans une absence quasi absolue, de recherche qui mettrait les deux caractères dans une perspective comparative. Donc, il s'agit d'une histoire qui est tout à fait visible, et bien sûr l'autre exemple aussi éblouissant de l'usage du mot musulman dans la littérature de l'Holocauste, la littérature d'après la Seconde Guerre mondiale. L'usage du terme est non seulement immense, c'est-à-dire qu'il est partout, et qu'il se dissémine. Encore plus que l'usage historique, c'est-à-dire que on sait que c'était un terme musulman qui était en usage seulement à Auschwitz, et le nombre d'écrivains survivants ou universitaires ou écrivains en général qui ne sont pas eux-mêmes nécessairement des survivants qui se servent du terme en l'appliquant à des régions, à des camps. Où l'usage n'était justement pas celui-là. Il y avait des termes qu'on pourrait dire parallèles, mais qui n'étaient pas des traductions justement parce que le terme lui-même n'était pas en usage. Or, après la guerre, le terme se dissémine, se démultiplie et se retrouve en fait partout. Au point que je ne crois pas avoir jamais parlé avec qui que ce soit qui a eu un sens, enfin une connaissance même rudimentaire de ce corpus littéraire, qui ne me disait pas « Ah oui, je me suis toujours posé la question ». C'est-à-dire, le terme n'est jamais invisible. Il est hyper visible et à la fois complètement invisible dans le trouble qu'il devrait générer et dans les questions qu'il devrait... Donc c'est cette histoire-là qui me fascine. C'est le moment où quelque chose de tout à fait évident... Et avec tous les problèmes du terme évident, ce qui est justement ça, qui est en fait qui bloque la voix, qui bloque l'analyse, qui bloque la vision, et qui se perpétue. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression d'être dans, j'ai presque envie de dire d'être dans le banal constant quand j'écris. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Puisque la porte, elle est là, elle est ouverte, elle est visible, et pourtant...
Mais tu te cognes dessus.
Et pourtant, je me cogne dessus, exactement. C'est assez bizarre.
Ouais, ton analyse, là, celle que tu viens de faire du musulman, ça fait partie également de la critique ou en fait du contentieux ou du différent, je ne sais pas trop comment l'appliquer, que tu as avec Agamben en particulier dans ce qui reste d'Auschwitz, où justement tu vois bien qu'il reconnaît cette étrangeté qui est liée à une certaine visibilité du musulman dans les camps, mais en même temps, tu dis il faut accroître encore le malaise ou l'étrangeté qui est là parce qu'il y a quelque chose qui ne voit pas dans cette visibilité-là qui est liée au rapport visible-invisible.
Absolument. Ouais. Mais j'ai une grande dette à l'égard d'Agamben quand même parce que c'est quand même lui, je crois qu'on peut on lui reconnaît elle lui reconnaîtra ça sans trop de difficultés, c'est quand même lui qui a mis le musulman au centre d'une réflexion philosophique, littéraire, etc., de nouveau en fait. Et je crois pas que c'est un, je crois pas que c'est un accident que les choses apparaissent maintenant à un certain moment historique, même si je n'ai pas vraiment de sens enfin d'une explication pour pourquoi.
Mais pourquoi ça glisse à nouveau dans l'inanalysable une fois que ça a été dit comme évident?
Pour Agamben?
Mais pour tous.
Ben pour les littéraires aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'écrivains qui en ont fait quelque chose. Par exemple, Grossman, Oui. Tu sais, Look Under Love, c'est quand même oui. À chaque page.
Absolument. Oui, enfin, S'Emprunt.
S'Emprunt.
Oui.
Et tous les héritiers de Primo Levi qui sont revenus sur lui.
Bah, c'est-à-dire que c'est comme ça que c'est invisibilisé, justement. En tant que c'est inanalysable, qu'on ne sait pas d'où ça vient, que peut-être c'est une référence obscure, alors que cette référence obscure est en fait constante. Et là, ça s'étend bien au-delà, puisque on a des phénomènes tels que, je crois que je prononce son nom correctement, Vincent Gessler, qui écrit sur l'islamophobie en France,
oui.
et qui l'a fait démarrer avec la décolonisation. C'est quand même incroyable que dans un pays où les principaux théoriciens des croisades ont vécu, qu'on puisse parler de l'islamophobie comme d'un phénomène qui a à voir avec la décolonisation. On a vraiment l'impression de rêver. Je veux dire, cet après-midi, je vais pas le lire maintenant, mais cet après-midi, je vais lire un petit passage que je cite d'ailleurs dans Ces mythes de Renan. Mmh. L'équivalent de cette conférence inaugurale au Collège de France, l'ordre du discours qu'avait donné Foucault, Renan l'a donné en 1862. Et c'est un texte, mais effarant, je veux dire, littéralement épouvantable. Hein, mais dans une conférence, il parle de la destruction de la chose sémitique. Qui comprend l'annihilation jusqu'à la mort du dernier fils d'Ismaël, il dit. Je vais le lire cet après-midi. C'est un passage.
C'est dans l'avenir du christianisme.
Non, c'est le titre du texte est absolument magnifique. Ça s'appelle De la part des peuples sémitiques dans l'histoire de la civilisation. Et vous n'avez pas besoin de chercher trop loin pour vous poser la question de quelle part ils ont, puisqu'il s'agit de les exterminer, en fait.
Oui.
Ou de les reléguer, il dit, de les reléguer jusqu'au fin fond du désert par la terreur. Conférence au Collège de France. Imaginez Foucault en 1984 en train de parler dans des termes pareils.
De Comini, oui.
Alors, avec Renan, qui est un auteur à la fois très connu et très peu connu.
C'est le canon, quand même, dès qu'on parle de définition de nation républicaine,
absolument.
Ou je ne sais pas quoi, en France,
côté,
c'est la seule qu'on sait par cœur.
Absolument. Et d'un autre côté, il y a quand même un phénomène intéressant, que ses œuvres complètes sont absolument...
Non lues.
Oblitérées. Elles ne sont pas réparues. Il y a les nouvelles études religieuses,
parce que s'il y avait ce texte-là, lu à côté de la définition qu'il donne de la nation... en référence au massacre de la Saint-Barthélemy, puis le plébiscite de chaque jour et tout, ça donnerait
absolument.
Un peu le texte en tant
toutes ces disputes qu'il a eues pour essayer de démontrer qu'il n'était pas raciste, ce qui est à un certain niveau vrai, dans le sens technique du terme d'un racisme biologique, Renan n'adhérait absolument pas à toutes ces thèses gobiniennes, etc. Mais comme on a tendance à l'oublier, le racisme prend beaucoup de formes et il n'a pas besoin d'être biologique pour être terrible et dans ses effets et même dans ses énonciations je me suis perdu là pour par rapport aux musulmans justement d'Auschwitz, la façon dont on a toute une ère culturelle qui se définit constamment. Ça serait l'autre résumé du livre Le Juif l'Arabe, pour le dire à la Benjamin, il n'y a pas de document occidental, donc chrétien, de la chrétienté occidentale, qui parle soit du juif, soit de l'arabe, sans être au même moment un document sur l'autre, c'est-à-dire sur lui qui n'est pas mentionné. C'est-à-dire qu'un texte qui ne s'adresse que à la question juive doit immédiatement être interprété en tant qu'il signifie par rapport à la question, disons, musulmane, à la question arabe. Et il me semble impératif de relire l'histoire dans ces termes, parce que la séparation est justement constante et stratégique.
Est-ce que ton travail sur... c'est un chapitre très important de ton livre sur cette appellation musulman, t'a conduit à quelque chose comme une explication, c'est-à-dire une signification. Pourquoi, en effet, est-ce que musulman a été choisi? Parce que tu, tu as des analyses quand même sur
musulmane
et tout ça.
Absolument. Oui. Sur ça démarre. Enfin, dans la généalogie que j'ai essayé de tracer, pour laquelle je ne veux pas donner une. Enfin, qui me semble hégémonique dans la mesure où elle participe de vraiment du canon philosophique de Kant, Montesquieu, Hegel. Et qui après se retrouve chez Freud, encore une fois, dans les textes les plus connus, quoi, la psychopathologie de la vie quotidienne, et le texte qui était le plus lu de Freud, au moins jusqu'à la période de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans les trois premières pages, c'est pas au moment où, quand on commence à lire et puis on n'arrive pas à la fin. C'est vraiment au tout début. Et ça a à voir avec, justement, avec la figure du sublime, qui apparaît chez Kant comme étant liée. Et c'est là aussi qu'il y a un moment absolument incroyable, que cette phrase est tronquée, soit tronquée, soit non interprétée par tous les philosophes que je connais.
Peut-être tu pourrais nous l'expliquer, nous rappeler de quoi il s'agit.
La phrase où Kant dit de façon mémorable que le moment le plus sublime dans la Bible hébraïque, il ne dit pas dans la Bible hébraïque, dans la Bible, c'est l'interdiction de faire des images, donc le Bildungsverbot, l'interdiction de faire des images, qui, il dit, explique, et alors là, ça fait un peu trop longtemps, j'aurais dû réviser, explique le rapport du peuple juif à sa religion et la fierté qu'inspire, et alors c'est là que c'est intéressant, la fierté qu'inspire l'islam, la fierté qu'inspire l'islam. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même dans la grammaire même de Kant, on voit la distinction entre le peuple juif, donc une entité qui commence justement à changer vers le politique, dans son rapport à la religion, tandis que l'islam n'a pas de sujet. C'est l'islam qui est inspiré. Alors, on ne sait pas chez qui, dans quel sujet justement, qui soit politique ou autre, inspire la fierté. Et bien sûr, tout ce passage particulier vient comme une sorte d'aboutissement de toute l'explication, l'analytique du sublime, où les sentiments dominants par rapport au sublime sont l'apathie, l'absence d'un sujet, une sorte de soumission fondamentale qui est reprise dans ces descriptions. Et chez Kant, c'est encore un peu flou, c'est-à-dire il y a pas de sujet du sublime, en fait, même s'il peut mesurer, c'est-à-dire même s'il donne un nom au sujet juif du Bildungsverbot, c'est-à-dire le peuple juif, encore une fois, dans son rapport à la religion, dans son rapport à la loi sublime. Chez Hegel, ce que tout le monde sait, Hegel appelle les religions du sublime, qui sont le judaïsme et l'islam, les descriptions de Kant se retrouvent tout à fait prises, reprises, remaniées et systématisées, et elles s'appliquent aux juifs et aux musulmans, qui sont les figures mêmes de la servitude. Avec des passages de Hegel dans les conférences sur l'histoire de la religion, où on a l'impression de lire Primo Levi. Hein. C'est absolument, encore une fois, j'arrête pas de m'épouvanter, mais épouvantable. Les descriptions de la servitude à l'égard du divin, à l'égard de la destinée, à l'égard du monde, que Hegel donne de cette servitude sémite, parce que pour lui elle est sémite, et sublime, qu'il reprend donc de Kant et de Montesquieu, qui vient d'inventer, ou en tout cas de systématiser, l'invention du despotisme asiatique, avec comme sujet privilégié le sultan de l'Empire ottoman, et comme sujet dans l'autre sens, donc soumis, le musulman. Avec des phrases qu'on ne retrouve pas du tout quand il s'agit de la Chine ou ou d'autres, ou même du pape, où il y a une justification pseudo-théologique, c'est-à-dire que l'islam serait la religion idéale de cette soumission au despote. Donc il y a des exemples autres que le turc, que le musulman pour le despotisme asiatique, mais le sujet le sujet soumis du despotisme, c'est le musulman. Et c'est la religion musulmane qui permet ça. Et donc Hegel reprend ça en rajoutant le juif, et là crée en fait la figure du sémite, comme justement celui qui ne possède rien sauf son dieu, qui est le dieu monothéiste, etc. Et Ronan les reprend exactement dans ces termes. Et c'est ça l'invention du sémite, c'est justement le moment où en fait on met en fait la religion du côté des sémites et tout le reste, et Ronan le dit mais très clairement, tout le reste du côté des Aryens. La civilisation, la culture, la poésie, l'art, la mythologie, la philosophie, la politique, la pensée militaire. Tout. Les sémites n'ont rien sauf Dieu. Et quand ça prend fin, alors ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai eu besoin en fait de continuer avec les sémites, parce que la discussion théologico-politique se transforme quand même un peu entre une distinction qui devient très importante et qui la reste aujourd'hui, qui est la distinction entre race et religion. Et la figure des sémites, c'est en fait la création de ces deux concepts de race et de religion. Et en même temps
ils
fondent, oui, ces deux notions fondent l'une dans l'autre.
Ouais, elles fusionnent
absolument.
Ouais. Et tout ce qui est fusion, on sait comme c'est dangereux.
C'est dangereux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que elles ont été reséparées, c'est-à-dire elles ont été inventées puis séparées, avec une opposition ancienne, celle du juif et de l'arabe, et historicisée. Et là, je reprends ta question tout à l'heure par rapport à l'histoire, c'est que j'essaie de dire ça au début de ces mythes, mais je crois que je le dis très mal, et j'arrive toujours pas à trouver des formulations claires, mais la différence historique fait partie de toute une série de différences qui est aussi stratégique. Et quand on dit qu'il y a, par exemple, un passage historique de religion à race, donc de l'antijudaïsme, par exemple, à l'antisémitisme, il me semble qu'on fait, on utilise l'histoire de façon stratégique qui est aussi obfuscante. C'est-à-dire qu'on cache quelque chose. Et ce qu'on cache, c'est qu'en fait, les deux catégories travaillent en même temps, de façon contemporaine, et se masquent l'une l'autre. Avec des moments absolument à la fois hilarants et attristants, où ce que vous appelez ici au Canada les premières nations, mm-hmm. Aux États-Unis, quand les premiers congrès d'études des religions commencent à se réunir, donc quand on a l'institutionnalisation de la science des religions, les Indiens d'Amérique sont exclus de toute considération religieuse. Pour la simple raison que les anthropologues avaient mis leur grappin dessus avant, mm-hmm. et ils ont dit non, c'est un groupe racial, ethnique, culturel, rien à voir avec ce que vous faites. Donc il y avait des querelles territoriales un petit peu simples entre les disciplines qui émergent, donc une rivalité entre l'anthropologie et les études religieuses, et avec les Indiens d'Amérique qui sont un peu pris entre les deux, et qui à l'époque comprennent très bien que être catégorisé ethniquement, racialement, c'est moins bien que d'être catégorisé religieusement. Et aujourd'hui, dans la plupart des centres, enfin aux États-Unis en tout cas, dans la plupart des centres d'études des religions, personne ne manquerait de remarquer que la spiritualité des Native Americans est bien sûr très importante à étudier dans le cadre de la religiosité.
Ironiquement, on pourrait même pas. Ben, je suis ironique un peu,
oui.
Dire que, étant donné qu'il y a une sorte d'appropriation qui se fait comme ça par l'anthropologie, aujourd'hui peut-être l'anthropologie aussi s'avance comme première discipline par rapport à la philosophie et l'histoire et bien
absolument.
D'autres aussi.
Absolument.
Cause de cette appropriation même.
Oui. Et ça, bien sûr, ça continue. Une chose qui est très troublante dans l'université, et à mon avis avec des effets qui vont bien au-delà, c'est effectivement la dominance et de l'histoire, qui à mon avis est tout ce qu'on veut sauf historique dans sa façon de penser, l'histoire comme discipline, et l'anthropologie. Certainement dans mon institution à Columbia, c'est d'une visibilité extraordinaire, où on a des départements comme le département de français qui fonctionne maintenant comme une sorte de supplément au département d'histoire, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'historiens qui étudient la France et la francophonie, donc le département de français se porte volontaire pour engager des historiens qui donc font le travail que le département d'histoire, qui est un département gigantesque, c'est-à-dire c'est l'un des plus grands départements à l'université, comme le département d'anglais, et donc embauche des historiens pour faire le travail donc historique, alors que on a de plus en plus besoin d'une autre imagination littéraire et philosophique, et que elle diminue à l'intérieur des départements qui étaient dévoués à ce projet, avec tous les problèmes qu'on peut y reconnaître, mais quand même. Et l'anthropologie, avec ce qu'on sait de la façon dont maintenant les anthropologues sont en train de reprendre du service, littéralement, puisque ils travaillent avec l'armée américaine en Afghanistan et ailleurs,
partout, ouais.
pour aider dans les rapports avec les indigènes.
Mais c'est une partie très importante de ton travail que cette critique des sciences sociales, finalement, mm-hmm. parce que tu mets à nu une forme de démission du philosophique, finalement.
Mm-hmm. Oui, c'est une des choses qui me préoccupe, c'est est-ce qu'il n'y a pas en fait une sorte d'idéalisation de ce qu'il y avait, c'est-à-dire à quel moment exactement les sciences sociales se sont démarquées d'un projet étatique, d'un projet en fait d'une perspective qui, au lieu d'être, c'est contre ça que s'élève Benjamin, et en tout et pour tout il est assez rare, une perspective qui serait la tradition des opprimés, et pas de tout le temps d'être en train de réfléchir de comment est-ce qu'on va gouverner, c'est-à-dire chaque scientifique social, et parfois même dans les sciences humaines, s'imagine roi. Mmh. Et ce qu'on doit faire, c'est s'imaginer comment, si c'était moi, comment moi je mènerais le monde, au lieu de se maintenir dans une perspective où il s'agit pas de dominer ou de gouverner le monde, mais d'essayer de en fait presque d'empêcher une étendue de la gouvernance, de modes de gouvernementalité qui sont de plus en plus à la fois diffus et établi et sédimenté.
Oui, mais plus ces modes de connaissance trouvent de l'extension, plus il me semble tu montres bien que ça ruine l'accès à ce qu'est le phénomène. C'est-à-dire, tu montres par exemple que dans le cas de la religion, nous n'avons plus aucune idée de ce que serait la religion, de ce qu'elle était. Et en ouais. particulier dans cette opposition qu'on a tellement de plaisir à construire entre nos sociétés séculières et les sociétés qui sont encore religieuses.
Absolument.
Ouais. Parle-nous de ça un peu.
C'est-à-dire, c'est difficile à justement à décrire dans une perspective de ce qui disparaît, parce que c'est vrai que c'est difficile à appréhender. Peut-être qu'en fait il faudrait pas. Je prends ta question justement de l'autre côté, qui est que dans notre propre compréhension de, par exemple, de la chrétienté, du christianisme, nous faisons une abstraction extraordinaire de ce qu'est et de ce qu'était le christianisme quand nous l'appelons religion. Donc on parle par exemple de la mentalité médiévale, de la religiosité dans la mentalité médiévale, comme si à l'époque médiévale la religion était une dimension de la société, comme si on pouvait dire ah vous savez Saint Louis était le roi, mais le pape était chrétien. Le pape était religieux, Saint Louis non. Bien, et on sait bien que ça ne veut rien dire. C'est la différence entre le pouvoir théologique du pape et le pouvoir séculier du roi qui est la chrétienté. Et à partir du moment où on abstrait de tout ça une foi, certains rituels qui se maintiennent ou qui ne se maintiennent pas, comme est-ce qu'on va à l'église ou est-ce qu'on ne va pas à l'église, comme si aller à l'église au Moyen-Âge c'était la même chose qu'aller à l'église à l'époque moderne, ou ne pas y aller d'ailleurs, alors qu'on sait que les églises c'était justement des lieux sociaux qui nous manquent d'ailleurs un petit peu, avec l'architecture nord-américaine qui fait tout pour qu'en fait les lieux de regroupement ne soient tout sauf publics. Mais bon, laissons ça. Une façon de vivre qui englobe de façon plus ou moins problématique tout un ensemble de pratiques où il n'y a pas une sorte d'extériorité, là c'est chrétien, là ça l'est pas, ou là c'est religieux, là ça l'est pas, devient la religion et est projetée vers le passé, en disant, ah tiens, ils étaient religieux, ça c'était des penseurs religieux, ça non. Comme si la présence de thèmes reconnaissables aujourd'hui comme religieux était l'indicatif d'une religiosité dans le passé. Or, ce que, et ça a été déjà proposé, ce qu'on appelle la religion, une compréhension qui serait un petit peu plus proche de la religion, si on veut la projeter, et dans d'autres aires culturelles, et dans des aires, dans le passé, ça serait de comprendre que la religion, d'abord, c'est tout. La religion, c'est la distribution de l'être, disons. Le christianisme, c'est ça, c'est une façon de distribuer la réalité, de séparer, de diviser, entre autres, cette distinction fondamentale, entre le théologique et le politique. Dans la modernité, il y a une distribution qui est remaniée, la division entre théologique et politique, elle reste assez identique à elle-même, mais elle est remaniée, et on dit, oui, mais tout ce remaniement-là, c'est pas le christianisme dans ses transformations, c'est le christianisme marginalisé. Et donc, il y a une mécompréhension de notre propre histoire, des propres transformations de la culture occidentale chrétienne, quand on dit, non, la religion, c'est seulement ce vernis-là sur le côté qui se mesure par rapport à la présence d'une audience dans les églises.
Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé de discuter, je sais que tu le cites, la thèse de Blumenberg, c'est-à-dire qu'il y a deux camps là-dessus. Il y a ceux qui disent la sécularisation, c'est une transformation, et donc il y a un héritage, il y a une persistance, et puis il y a ceux qui disent, alors ça c'est pas Blumenberg, ouais. Et il y a ceux qui disent comme Blumenberg, que au contraire la sécularisation c'est une rupture absolue, ouais. c'est l'avènement du nouveau, c'est ouais. quelque chose en d'autres mots qui est un refoulement de, alors bon vers la marge justement.
Oui. C'est-à-dire au minimum, je lirais le mot refoulement comme en termes freudiens, mm-hmm. et que donc si c'est le cas, alors ça exige qu'on réfléchisse autrement à la puissance de ce refoulement, c'est-à-dire que ça devient un refoulement qui règne. En fait, or Blumenberg considère que bon bah c'est fini, on l'a repoussé, on est passé au nouveau. Et moi la seule image que j'ai pour ça c'est j'ai même oublié son nom, ce fameux caractère qui se tire par les bottes ou par les cheveux en dehors de
ah oui, le baron Munchausen.
Le baron Munchausen, exactement. Ouais. Merci. Comment ça se passe une chose pareille, comment une culture entière, une civilisation entière se tire par les bottes en dehors de tout ce qu'elle était et dit ah ben maintenant c'est nouveau. Je comprends absolument l'impulsion, hein. Je l'ai je sais pas ce que ça veut dire de la mettre en termes autobiographiques, mais j'ai eu des moments dans ma vie où après avoir quitté la France, j'avais 17 ans, j'ai dit mais je ne suis pas français, je n'ai rien de français, je ne veux plus entendre parler de la France, c'est fini, la France c'est fini. Je ne suis donc pas français. Bon, c'est une affirmation intéressante dont il faut prendre la mesure, qu'il faut prendre en considération si ma biographie avait une importance quelle qu'elle soit, ce que je ne crois pas. Mais bon, on pourrait dire oui, ça fait partie du récit. Il faut le prendre en compte. Mais de là à dire et il a raison, c'est-à-dire oui, c'est vrai, il est plus français. Alors que 17 ans d'une période absolument formatrice, d'une éducation, d'un usage de la langue, même si j'avais complètement arrêté de parler le français à l'âge de 17 ans, qu'est-ce que ça voudrait dire si je disais, voilà, c'est fini. Le français, c'est fini. Je n'ai rien de français en moi. Ça serait un refoulement. Et ça serait un refoulement qui pourrait être intéressant, qui pourrait donner des symptômes jolis à regarder, peut-être, mais ça serait un refoulement. Et pour moi, ce que dit Blumenberg, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on a décidé qu'on est nouveau. Bon, c'est bien, c'est important de prendre en considération qu'est-ce que ça veut dire pour une entité qu'on appelle civilisationnelle, culturelle ou religieuse, de dire qu'elle n'est plus ce qu'elle était. C'est très important, il faut absolument mesurer les effets de cette affirmation, et même des effets qu'elle a, qui sont bien sûr pas seulement discursifs. Mais de là à la prendre au mot et de dire donc c'est comme ça, ça me semble erronés, au minimum erronés. Sans dire même dangereux.
Ouais. Dans une de tes interventions ces derniers jours, tu as parlé de Jules Furet, par exemple. Bon, tu semblais assez méfiant.
Jules Ferry.
Oui, c'est ça. Oui. Pardon. Oui. Et tu étais assez méfiant, justement.
François Furet.
Oui, c'est ça. Ça glisse un peu, le Furet, là. Mais tu étais méfiant, justement, de cette notion qu'on utilise vraiment, comme ça allait quand même un peu de soi, de laïcité. Hein, et puis tu rappelais bon que justement quand il va en Algérie et tout ça, c'est quand même tout, encore et toujours la guerre de décolonisation qui se poursuit sous ce nom-là.
Hein? Oui, absolument. Absolument. Alors, et c'est justement là-dessus. Mais pardon, je t'interromps.
Vas-y.
Ce qui me semble extraordinaire dans les discussions sur la laïcité, sur le sécularisme en Europe, c'est la façon dont c'est abstrait. C'est pour ça que j'ai essayé de remettre Saïd dans l'équation. C'est qu'il me semble absolument impératif de ne pas séparer les discussions sur la sécularisation des discussions sur le colonialisme. C'est-à-dire que c'est la même procédure qui consiste à découvrir la religion ailleurs, au moment où nous, se disant, nous nous en débarrassons. D'où l'importance d'une critique du christianisme qui ne se considérait pas comme une critique de la religion, mais comme une critique du christianisme. C'est-à-dire pas en tant qu'il s'est transformé, en tant qu'il se transforme, mais en tant qu'il inflige sa logique à l'extérieur, à travers et la mission et le colonialisme. Alors pour que Blumenberg soit légitimé, pour utiliser son mot à lui, il faudrait qu'il nous donne une façon de gérer le fait que la religion, celle qu'on aurait refoulée ou qu'on aurait abandonnée en Europe, se retrouve comme par miracle incarnée ailleurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est le moment même de la découverte de la religion ailleurs qui est le moment où nous, on l'aurait abandonné.
À ma connaissance, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Pas du tout même.
Oui, oui.
Parce que la seule chose qui l'intéresse, lui, si je le comprends bien, c'est de pouvoir démontrer que la nouveauté est réelle et que ce n'est pas un processus de transformation. Donc, le religieux n'est plus là.
Oui.
Il n'est même plus perceptible.
Oui.
Et il va même jusqu'à dire, dans un petit livre qui m'a beaucoup impressionné, qui est une réflexion philosophique sur l'œuvre religieuse de Bach. Ça s'appelle La Passion selon saint Matthieu. Ouais. Il dit que nous ne pouvons plus l'écouter, que nous qui croyons l'écouter, nous ne savons pas ce que c'est écouter cela, parce que écouter cela supposerait que nous appartenons encore à ce monde où la religion avait justement cette prégnance, tu vois.
Dans
tableau.
Beaucoup à lire sur l'écoute.
Oh, oui. Ben, tu vois, alors donc il y a comme c'est pas juste un effet de refoulement, c'est un effet de refus.
Ouais.
C'est pas juste une procédure inconsciente, c'est une procédure inconsciente certes,
mais
aussi affirmée est quelque chose qui a à voir avec une sorte de promotion de l'Occident cartésien. C'est ça le travail de
mais on a l'image, ce que tu évoques, c'est aussi l'image de du self-made man, c'est-à-dire l'Europe se fait, elle se fait, et c'est un peu comme si on parlait, d'ailleurs on en parle comme ça, de la consommation à outrance de aux États-Unis sans qu'il y ait un rapport quel qu'il soit avec l'état du monde.
Oui, mais je te signale que dans son cas, ça suppose une réinvention, une relecture de l'histoire universelle qui conforte cette approche. Par exemple, ça suppose que l'Europe trouve ses vraies racines dans la Grèce des sophistes et non pas dans Platon et Aristote, ce qui est quand même énorme. Ça veut dire en d'autres mots que l'Europe cartésienne, elle a d'abord des racines rationnelles, rationalistes, chez des penseurs qui n'étaient absolument pas religieux.
Ouais.
C'est tellement énorme. Comme thèse. À ma connaissance, d'ailleurs, quand Rémi Brague, que tu connais, je pense, a entrepris de le réfuter, sa première ligne de réfutation, ça a été de montrer qu'on ne pouvait pas accepter une histoire de l'Europe qui marginalisait, parlons même pas du christianisme, mais la religion grecque, c'est-à-dire la métaphysique. C'est assez gros.
Oui. Il a bien pignon sur rue encore, Blumenberg, on l'aime beaucoup,
je pense,
non?
Que c'est quand même le penseur de la sécularité, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est le penseur de sa légitimité, c'est
absolument
l'héritier de Nietzsche, et c'est Oui, ouais. Absolument. Mais moi, j'apprécie en tout cas dans ton travail. Tu ne l'as pas critiqué explicitement, mais tu as pris le soin de le placer dans une typologie où il n'est pas seul.
Oui.
Où il y a d'autres avec des ouvertures qui sont importantes. J'aimerais te demander un peu pour faire bifurquer l'entretien, mais c'est parce que je pense que pour nos auditeurs, ce sera important de te connaître un peu comme personne.
C'est-à-dire il faut absolument.
peut-être voir un peu avec qui tu as étudié, parce que Saïd est une grande figure pour toi. Tu as travaillé avec Judith Butler, mais tu as aussi un rapport avec Jacques Derrida qui a quand même une grande importance. Peut-être tu pourrais nous dire un peu ton parcours.
Un mot aussi sur Talal Assad, marque quand même ton travail.
Tes interlocuteurs principaux.
Oui. Quelque part, en fait, j'ai envie de dire, c'est tout Derrida. En termes biographiques, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé au moment où j'ai commencé à lire Derrida que tout a commencé. Mais c'est aussi vrai que j'ai lu Saïd à travers des interprètes très intéressants qui ne figurent plus beaucoup, malheureusement. C'est une certaine injustice de l'activité de commentateur. Il y a quelqu'un qui m'a en fait introduit à Saïd dans une perspective des études juives, qui s'appelle Amiel Alcala et qui a écrit un livre dont le titre n'est pas si éloigné du mien, qui s'appelle After Jews and Arabs, qui est en fait un livre qui m'a mis sur la voie de Our Place in Al-Andalus. Même si j'ai une perspective, disons rhétorique très en fin de compte très différente. Mais est beaucoup plus proche justement de, enfin, je veux l'espérer, de Derrida dans une attention à la langue, aux marques, à la rhétorique, à la poétique, etc. Mais donc Derrida et Saïd, à la fois par certains intermédiaires, les intermédiaires pour Derrida, c'était Judith Butler, oui, mais d'abord Avital Ronel, qui m'a pratiquement tout appris sur Freud et sur Nietzsche. Aussi, c'est-à-dire les cours que je prenais avec elle au début quand j'ai commencé à étudier à Berkeley, c'était vraiment c'était d'ailleurs tout Nietzsche et à travers Derrida et j'ai envie de dire à travers Freud aussi. Donc c'est la trajectoire, mais je veux pas diminuer du tout l'importance d'autres figures. Malheureusement, l'un d'entre eux est décédé trop vite. C'était Amos Funkenstein, qui est à la fois un historien. Oui, je crois qu'il se serait dit que historien, même si j'aimerais bien lui accorder d'autres titres. Il était historien des sciences et historien de l'histoire de l'Église, historien de la théologie. Et une des choses pour lesquelles il m'a absolument marqué, c'est une chose qu'il m'avait dite assez tôt. Il m'a dit oui, mais bon, vous vous intéressez au rapport entre judaïsme et islam, mais en fait, il se passe rien entre judaïsme et islam parce qu'il n'y a pas de controverse. Et donc, lui, il ne s'intéressait qu'au rapport entre judaïsme et christianisme, justement à cause de la controverse. Et en fait, quelque part, je crois que je suis d'accord avec lui, puisqu'il s'agit justement d'imaginer comment ça se fait que le juif et l'arabe sont devenus de telles figures d'ennemis, alors que historiquement, la controverse judéo-islamique, en termes simplement textuels, est absolument minime. C'est-à-dire, il n'y a absolument pas un corpus comparable à toutes ces disputations de médiévales et à tout ce débat qui s'interrompt en fait de façon massive avec le XVIe siècle et qui met fin à la dispute théologique entre juifs et chrétiens. Et quelque part, je reste nostalgique du travail de Funkenstein dans la mesure où il s'agit en fait d'essayer de renouveler un petit peu cette dispute théologique en prenant en considération ses effets abrahamiques. Et donc, ce sont eux mes maîtres. J'ai été aussi beaucoup marqué par Daniel Boyarin, qui est un talmudiste, et avec lequel je plaisante encore sur le fait que m'étant intéressé à la mystique juive, j'en aurais pu étudier et ayant un rapport à la spiritualité qui n'est pas exactement celui qu'on dissémine, en tout cas une perspective assez New Age, comme ça, dans les études de religion. Je ne pouvais étudier la mystique juive qu'avec un Lituanien, donc profondément anti-mystique. Et même si je ne suis pas sûr que c'est vrai, ni pour lui, ni pour moi, en fait, mais bon. Donc, ça a été. Bon, j'ai étudié de façon philologiquement correcte à l'université hébraïque, justement la philosophie juive et la Kabbale, et l'histoire juive, des départements à la fois très forts philologiquement et à la fois extrêmement, extrêmement ethnocentrés. J'ai étudié de 84 à 87, je n'ai pas entendu une seule fois, en 3 ans d'études assez intenses, une seule fois le nom de Foucault, le nom de Derrida, le nom même de Lévi-Strauss, Althusser, enfin Barthes, tout ce qui se passait, qui était en plein. Derrida est venu en 86 à Jérusalem. J'ai jamais été, j'ai jamais. Rien, vraiment pas entendu un mot. Et il y a eu quand j'ai fini, j'ai un peu voyagé. Il s'est vraiment produit une sorte d'appel d'air qui a complètement explosé une fois que j'ai commencé à étudier à Berkeley, qui s'est produit de façon un peu bébête comme ça. C'est que je suis arrivé avec mon accent français aux États-Unis et les gens m'ont dit ah vous êtes français, vous devez connaître, et ils m'ont donné une bibliographie dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc je me suis jeté là-dedans, je suis immédiatement tombé amoureux de Derrida, et puis voilà, de fil en aiguille, c'est ça. Je sais pas, c'est une façon probablement un petit peu stupide de faire ma biographie, mais enfin en termes de d'événements, disons, c'est ça qui s'est passé, et j'en suis pas sorti. Même Talal Assad, j'ai commencé à le lire à ce moment-là. Le livre est sorti en 93, j'étais en fait assez encore au début, mais ça m'a à la fois marqué, mais ça m'a marqué d'une façon que j'aurais pas été capable d'articuler. Je crois qu'il apparaît même pas ni dans Our Place in Al-Andalus ni dans The Judy Arab.
Non, c'est pour ça que ça paraît surprenant, oui, quand on lit Semitz, parce qu'on sent comme un déplacement, mais qui est un peu faux ou faussé.
Oui, parce qu'en fait, il était là toujours, mais.
On se dit, bon, il y a une telle importance quand même de Derrida dans The Judy Arab, où passe Derrida, il disparaît un peu dans le livre Semitz.
C'est vrai. Encore que oui, il y a une façon dont la bibliographie, même les références explicites sont absolument trompeuses. Mais c'est vrai, il se passe quelque chose que j'ai été obligé de formaliser en disant je suis passé un peu à Talal Assad et Ashis Nandi. Une sorte de discours un petit peu plus polémique aussi. Hein. Je rigole souvent avec Talal Assad parce que dans Genealogies of Religion, il y a une section du livre qui s'appelle Polemics. Et je rigole parce que je lui dis, mais vous pensez vraiment que le reste du livre n'est pas une polémique? C'est-à-dire la première partie du livre, par exemple, c'est un engagement mais absolument violent avec Clifford Geertz, et qui ne mérite aucun autre titre que polémique. Et pourtant, c'est seulement les dernières sections du livre qui s'appellent polémique. Bon, comme quoi la façon dont on se présente, justement, la façon dont on représente ce qui se passe n'est pas nécessairement la meilleure.
Ton travail actuel est, on pourrait dire, a priori reçu et interprété dans un cadre politique, puisque tu es dans une université où ce cadre politique est très vivant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot?
J'aimerais que tu aies raison. C'est vrai qu'il y a une attention disons, politique à mon département. Moi, je suis assez en marge, ce qui ne me dérange pas particulièrement. J'ai un ami qui dit, de toute façon, toi, personne ne comprend un mot de ce que tu écris, donc c'est pour ça que personne ne veut ne parle de toi. Il y en a quand même quelques-uns qui essayent. Ça avait été un moment marrant où le New York Sun avait avait repris le titre d'un de mes cours. Le cours en question, ça, c'était Hate, haine, la haine. Et pour dire que, regardez, à Columbia, les gens enseignent la haine et la propagent et la disséminent. Donc, dans la mesure, si tu veux, d'un côté, tu as tout à fait raison, c'est repris dans une sorte de politicisation qui vergerait sur le ridicule si elle n'était aussi dangereuse et consensuelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une atmosphère persécution, c'est un grand mot, mais disons que ça fait partie de cette machine qui justifie la guerre, qui justifie les bombardements, qui justifie les projets de bombarder l'Iran, avec Newsweek qui s'est joint il y a 2 semaines là, en disant que l'État le plus dangereux c'était le Pakistan. Donc on a l'impression qu'on est déjà en train de préparer la suivante. Mm-hmm. Avec toutes les ironies qu'il y a, encore une fois, à planifier le bombardement d'un pays qui est un pays qui a été fait par la guerre froide, par les États-Unis, et qui a été soutenu dans le combat contre le communisme. C'est des choses absolument incroyables. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a une réception politique.
Mais est-ce que tu acceptes cette réception? C'est-à-dire toi-même, par exemple, ça te donne envie d'intervenir, de développer des positions sur...
C'est-à-dire une des leçons de tous ces événements, même si c'est une leçon qui peut pas se traduire concrètement très très souvent, c'est que de temps en temps, à cause de ça, on nous donne la parole. Même si c'est dans des cercles restreints, quand Fox News m'a appelé pour m'annoncer, ce que je ne savais pas, que j'étais un des professeurs qui avait été targué de harcèlement politique par des étudiants, pas harcèlement sexuel, harcèlement.
Mais oui, je précise.
C'était la catégorie. C'était la catégorie d'intimider les étudiants sionistes, de les défavoriser en cours. C'était d'abord la première fois que j'avais réalisé qu'en fait Fox News était une organisation journalistique, puisque j'ai reçu mes informations d'eux, pour une fois, au téléphone. Et la deuxième chose, c'est qu'ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Et heureusement que j'ai des amis qui sont plus informés que moi, parce que ils m'ont dit tout de suite, demande combien de temps de mots. Et donc j'ai posé la question et on m'a dit 20 secondes. 20 secondes. C'était vraiment extraordinaire. J'ai rappelé Fox News, j'ai dit, je vous dis une phrase, elle dure, je l'ai mesurée, elle dure 19 secondes, mais vous me promettez que vous sortez cette phrase entière. La productrice me dit, d'accord. Et alors c'était un moment incroyable, mais pour te dire, si tu veux, le
est-ce que tu te souviens de la phrase?
Oui,
on la veut.
Scène, on nous donne une scène pour vraiment donc 20 secondes, et que c'est dommage de la rater et c'est dommage de la gaspiller. Et alors la dernière chose pour laquelle je voudrais la gaspiller, c'est pour parler en fait des universitaires comme étant de nouvelles victimes. C'est-à-dire, d'un côté, c'est tout à fait réel, il y a des gens qui sont absolument marginalisés ou dont la tenure est refusée ou révoquée, et donc il y a effectivement un climat dangereux, mais d'un autre côté, la situation actuelle est que les professeurs d'université sont quand même privilégiés, parce que si on reçoit la tenure, on a la sécurité du travail, ce qui aujourd'hui est quasiment de l'ordre de l'impossible pour la population du monde dans son ensemble. Donc on est quand même dans une situation privilégiée. Donc le fait que nos privilèges soient mis en question pour des mauvaises raisons, mais le fait qu'ils soient mis en question ne nous transforme pas, je crois pas, en victimes. C'est-à-dire, c'est le moment où on peut profiter, encore une fois, du fait qu'on nous donne le micro pour dire quelque chose d'autre que on nous attaque, nous, il me semble. Et donc j'en ai profité pour dire, et c'est les seuls moments où je m'identifie de cette façon, j'ai dit, en tant que juif et israélien, je suis choqué par la vilification dont sont victimes mes collègues, mais tous les collègues, tous ceux, pardon, j'ai même pas dit collègues, j'ai dit tous ceux qui parlent pour les droits des Palestiniens. Et alors, ça n'a pas raté. 2 heures plus tard, elle m'a enregistré cette phrase. 2 heures plus tard, elle me rappelle, elle me dit, vous savez, j'ai peur que nos téléspectateurs ne comprennent pas. Ah donc, je vais couper la première partie de votre phrase pour dire que, simplement pour regarder, je suis choqué que que ce soit qui parle pour les droits des Palestiniens soit persécuté, vilifié. Oui. Je lui dis, non mais donc, vous avez rien compris. Parce que si vous coupez la première partie de la phrase, alors ça n'a plus aucun intérêt, ça n'a plus aucun sens. Elle a gardé, avec un effet. Alors, je suis content de rapporter que, contrairement à mes collègues qui reçoivent des menaces de mort, qui témoignent de leur position radicale, moi non. C'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, Fox News, personne ne regarde, parce que je n'ai reçu mais aucun écho. Il ne s'est absolument rien passé. Elle a passé toute la phrase et personne ne m'a appelé pour me traiter de quoi que ce soit. Alors d'un côté j'en suis très content, mais d'un autre côté il semble que même quand j'essaye d'être compréhensible, ça me...
On verra, il y aura peut-être des échos sur Radio Spirale
plus tard. Exactement. Ouais, plus tard.
On va
oui, conclure. Vas-y.
Merci, merci. C'est un plaisir de.
Ben, je pense que ça, on a été très heureux de t'avoir, faire connaître ton travail. Et puis
on attend ton prochain livre,
oui,
qui est sur le sang.
Sur le sang.
S-A-N-G.
S-A-N-G.
Et je pense qu'on aurait peut-être une responsabilité à ton égard qui serait de faire en sorte que tu puisses être traduit en français rapidement. Parce que je crois que ce serait important.
Je te remercie. Il y a peut-être une possibilité avec Semit. J'attends encore une réponse. J'ai un ami qui m'est très cher, Marc Nishanian, un intellectuel, un philosophe franco-arménien qui m'a fait la gentillesse de traduire 2 des textes qui sont ici et un autre qui est en fait ce que j'ai présenté vendredi sur la guerre contre l'antisémitisme. Et donc ça va être, si ça paraît en France, ça sera un livre un petit peu différent où il y aura plus cette jointure entre sémite et antisémite dans l'imaginaire contemporain.
Alors, Gilles, merci beaucoup.
Merci pour ta générosité dans tes réponses. Merci
à vous. Merci.